Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Jean-Louis Jagorin.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, si on fait le CV, disons exhaustif, ancien élève de l'École Polytechnique et de l'ENA. Vous avez été longtemps chef du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, donc diplomate. Puis vous avez été vice-président en charge de la stratégie de ADS Airbus. Aujourd'hui, vous êtes conseiller international et vous êtes enseignant à l'IEP à Sciences Po Paris. Vous publié avec votre camarade Léo Isaac Donien, qui lui aussi consultant en transformation numérique. Vous publiez ce livre qui s'appelle Cyber, sous-titre La guerre permanente. C'est paru en novembre aux éditions du Cerf. Alors, vous êtes, on l'a dit, ancien diplomate, vous avez été à la tête de ADS. Et dans le deuxième chapitre, la deuxième partie de ce livre, vous comparez l'apparition, l'émergence du numérique dans la guerre à celle de l'arrivée de la poudre à canon. Vous dites que c'est un changement de paradigme comparable dans les rapports de force entre différents acteurs et notamment entre les États. Pourquoi cette comparaison ?
Écoutez, Clausewitz a dit dans une formule célèbre et très juste que la guerre est la poursuite de la politique, c'est-à-dire la volonté d'influencer le destin des populations, des États, par d'autres moyens. Eh bien, ce que nous disons, Léo Isaac Donien et moi-même, dans ce livre, c'est que le numérique, la cyberguerre, est une forme alternative à la guerre traditionnelle, violente, létale, qui cause des morts, pour atteindre des objectifs politiques par d'autres moyens. Et exactement comme dans le cadre de la guerre classique, la révolution, ce que vous avez dit, la poudre à canon, était un changement majeur dans la guerre, puisque ça a augmenté la puissance. Forcément, il y a plus de destruction qui était commise par un seul coup de canon que par des tirs de flèches, etc. Et ça a augmenté la portée, et très vite, très rapidement, et on a abouti avec en deux ou trois siècles des portées très importantes, inimaginables avec les moyens, avec les armes blanches étaient possibles. Et ça a augmenté aussi la rapidité, puisqu'effectivement, la vitesse de propagation de cette nouvelle arme était très supérieure à celle des flèches, des lances, etc.
Et vous le rappelez, en fait, l'ancien diplomate que vous êtes, regarde ça, vous le dites, stratégiquement, le numérique est une arme, dans tous les sens du terme, qui bouleverse tout, qui bouleverse même les stratégies tactiques des États, et qui bouleverse également les rapports de force entre grands, petits, moyens.
Elle bouleverse les rapports de force parce que la barrière, ce qu'on appelle la barrière d'accès en économie, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour avoir une capacité de nuisance dans le numérique sont très inférieures à celles pour avoir des capacités de nuisance avec les armements traditionnels. Alors, parlons pas du nucléaire, il faut à la fois des capacités scientifiques, des investissements importants, les avions de combat, etc. Là, dans le numérique, les investissements sont très limités. Je vais vous donner un exemple parce que, un mot, cette guerre numérique, elle s'exerce de deux façons, mais avec le même objectif objectif de contrôle, d'influence. La première, c'est par intrusion informatique. Et en général, quand on parle de cyberguerre, on pense à ça. Le hacking, à des fins d'espionnage ou à des fins de sabotage, comme les Américains lorsqu'ils ont saboté en 2010 les centrifugeuses nucléaires iraniennes. Ou alors, à des fins même d'intimidation, ce qui s'est passé aux États-Unis entre janvier 2017 et juin 2018, où plus de 400 intrusions, très vraisemblablement russes, en tout cas selon le gouvernement américain, se sont produites sans aucun dégât, mais au cœur des systèmes informatiques, de plus de 400 installations électriques de production ou de distribution électrique américaine. Ce qui est un message, en quelque sorte, d'intimidation.
C'est-à-dire, on ne fait rien, mais on peut vous montrer qu'on vous montre qu'on pourrait.
On vous montre qu'on pourrait. C'est très important. Mm-hmm. Bon, alors, l'intrusion informatique est une première arme. Il y en a un deuxième moyen de guerre numérique, complémentaire et qui souvent s'intègre, c'est la manipulation de l'information numérique qui peut se faire.
La guerre informationnelle. D'ailleurs, vous dites que tous ces concepts-là sont des concepts du jeu comme le monde, bien plus vieux que le numérique.
Mais là aussi, avec une rapidité, une puissance.
Effet d'échelle bien supérieur.
Bien sûr, comme vous savez, la guerre informationnelle, lorsque vous aviez ce qu'on appelle une fake news, c'est très à la mode, comme par exemple les services renseignements soviétiques avaient voulu ont répandu le fait que le sida était le fruit d'une expérience ratée ou de la CIA en Afrique. Ça a pris 2 ans à se diffuser par des journaux en Yougoslavie, puis ça a été repris dans un pays du tiers-monde, etc. C'est très compliqué avec un impact réel, mais enfin, c'est très très long. La moindre fake news, maintenant, avec Internet, ça se distribue, ça voyage à la vitesse de la lumière, et ça se diffuse à un très grand nombre de récipiendaires à cause des réseaux sociaux. Alors, on estime, si vous voulez, que vous montrez le rapport coût-efficacité pendant l'action qui n'est pas franchement démentie de ce qu'on appelle Internet Research Agency, qui est une officine de Saint-Pétersbourg
russe,
qui a atteint sur les réseaux sociaux, avec des faux comptes, des comptes prétendument américains, plus de 120 millions d'Américains. Ça a été analysé par les réseaux sociaux eux-mêmes, qui n'étaient pas très fiers.
Facebook et Twitter, c'est dans un rapport.
Facebook et Twitter. Et ça coûtait $1 million par mois. Mais c'est rien, vous vous rendez compte,
rien
si vous comparez
ouais.
ça au coût d'un avion de combat.
Pour atteindre 120 millions de citoyens américains.
Absolument. Donc c'est une révolution majeure dans, au point de vue stratégique.
Et vous le dites d'ailleurs, cette cyber-ingérence, vous parlez de cyber-ingérence, c'est un moyen, c'est un outil de soft power presque incontournable. Et rarement, un pays, un État, un petit groupe d'individus, une agence a été capable d'avoir une telle influence sur un autre État en temps de paix qu'aujourd'hui avec le numérique, c'est ce que vous dites.
Et ça va se développer de plus en plus. Nous en sommes tout à fait au début. Et l'anonymat qui existe, et qui est que nous ne remettons pas en cause, mon co-auteur et moi, mais qui est utilisé par des États, disons, qui sont agressifs, l'anonymat permet de se déguiser. Ça permet de, si vous pouvez être basé en Russie ou aux États-Unis ou dans le monastère italien de M. Bannon, et puis vous faire passer pour un citoyen britannique qui fait campagne pour le Brexit, ou voir un intervenant dans des manifestations politiques très actives en France.
Cet anonymat, il est à la fois efficace et puis par ailleurs aussi, il permet, le risque de représailles est toujours très faible. C'est ça qui est intéressant dans votre ouvrage, Jean-Louis Jagorin, parce qu'on a souvent parlé ici de cyberdéfense, de cybersécurité. Vous, il s'appelle cyber parce qu'il prend en compte justement cet ouvrage, ces deux aspects, vous l'avez dit, ce qui relève véritablement de l'infiltration et ce qui relève plus de l'information. Comment est-ce que vous regardez justement les acteurs en puissance dans cette nouvel équilibre des forces? Il y a un chapitre qui s'appelle « La cour des grands ». La Chine, les États-Unis et la Russie, qui sont un petit peu les trois puissances qui sont, disons, les plus engagées dans ce combat. Comment est-ce que, justement, elles arrivent à répondre à ces deux aspects, ces deux volets? On parle souvent de cybersécurité, on parle souvent de cyberdéfense. Ici, en France, d'ailleurs, on développe des moyens pour répondre à des attaques informatiques. Mais finalement, on est très mal armé contre, justement, ce qu'on appelle la guerre informationnelle.
Alors, ces trois puissances ont des stratégies nettement différentes. Les États-Unis ont, comme souvent, une approche très technologique. Et ils ont eu ce que je conseille, on peut appeler l'illusion lyrique, que grâce à leur supériorité, ils ont inventé Internet.
Oui.
Tous les géants industriels du numérique étaient, parce qu'ils le sont moins maintenant avec l'arrivée des Chinois, étaient jusqu'à tout récemment américains. Les réseaux sociaux sont encore essentiellement américains. Ça ne va pas durer, mais c'est encore le cas. Et puis, la NSA, l'agence de cyberespionnage américaine, avait des capacités gigantesques. Et l'illusion lyrique, c'est qu'ils ont une espèce de hubris, l'expression est à la mode, de démesure. Ils ont cru qu'ils pouvaient assurer leur hégémonie par l'espionnage global. Et en fait, ils ont accumulé une quantité astronomique d'informations dont ils ne pouvaient pas servir, tout simplement parce qu'il fallait savoir ce qu'il fallait chercher. Donc ils stockaient. Alors effectivement, y compris sur leurs alliés. Ils ont espionné l'Élysée, ils ont espionné la chancelière allemande, etc.
Edward Snowden.
Et finalement, ils ont ensuite cru qu'ils allaient pouvoir résoudre des problèmes géostratégiques comme le nucléaire iranien par le cybersabotage. Ça marchait au départ, et puis ils se sont pris une réaction qu'ils n'avaient absolument pas prévue, et ça je peux vous le dire, et les études que mon co-auteur et moi avons faites, les recherches le prouvent, qui a très profondément choqué Obama. Obama était très fier de lui, il lance cette attaque qui ne fait pas de mort, et qui retarde de 2 ans au moins le programme nucléaire d'enrichissement nucléaire iranien. Ça c'est en 2010. Mais tenez-vous bien, en 2012, entre 2012 et 2013, il y a eu toute une série d'attaques sur des grandes installations financières, des grandes structures financières à Wall Street, dont la fameuse SEC,
la qu'on bourse a attribué entre-temps à l'Iran.
Qu'on a attribué à l'Iran, mais ils
n'ont pas compris à quel point leurs ennemis, même s'ils étaient entre guillemets des petits, d'ailleurs vous dites que l'Iran et Israël sont des puissances qui ont développé de gros moyens, et bien finalement sont tout à fait en capacité de répondre. Un dernier mot pour conclure là-dessus, qu'est-ce que vous préconisez notamment en Europe et au niveau international pour qu'on essaye d'enrayer ce que vous appelez la loi de la jungle, mais notamment en Europe, est-ce qu'on est suffisamment prêt?
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a clairement, il faut mettre fin à cette situation où il n'y a aucune norme internationale sur la sécurité d'Internet, du numérique en général, des réseaux sociaux, parce que, à la fois, parce que vous avez l'idéologie des fondateurs d'Internet, qui sont très sympathiques et qui ont cru qu'Internet allait répandre la paix dans le monde, Tim Berners-Lee et Vint Cerf, etc. Et ils ont cru cela, et puis en même temps, donc pas d'organisation, pas parler de sécurité, c'est mal. Et puis deuxièmement, les grands États, les trois cybergrands, effectivement, les États-Unis, mais aussi la Russie et la Chine, n'ont aucun intérêt à ce qu'est cette organisation. Et donc il y a une organisation qui s'occupe de la sécurité de l'aviation civile, il n'y en a pas pour Internet. Donc la France a pris une initiative qui est soutenue par ses partenaires européens, qui est l'appel qui a été lancé par la France le 12 novembre pour l'appel à la sécurité dans Internet, qui est une initiative très positive. Donc ça c'est une première action de l'Europe. Mais il faut un rapport de force, il faut que l'Europe soit présente dans cette guerre, elle a la capacité de se défendre. Il y a des capacités, ce qu'on appelle des comms cyber, des commandements cyber tout à fait efficaces en France, en Allemagne, en Angleterre. Il y a des capacités de renseignement, elles sont séparées, elles ne sont pas unifiées. Et donc il faut que l'Europe atteigne ce rapport de force.
Pour pouvoir peser face à ces trois grands.
Peser sur les trois grands, sur le plan de l'intrusion informatique, de la défense contre la cyber, et peser sur le plan informationnel, ce qui veut dire peser sur les réseaux sociaux. Avoir la capacité de dialoguer avec Facebook et avec Twitter, qui actuellement ne parle qu'au gouvernement américain.
C'est ce que vous préconisez dans votre livre aussi, avec vous préconisez aussi la mise en place d'analyses indépendantes de celles de l'État, notamment quand il s'agit d'attribuer ce type d'attaque, en tout cas de tentative de prendre le pouvoir par l'information. Merci beaucoup à vous, Jean-Louis Gergorin. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez publié aux éditions du Cerf avec Léo Isaac Donien, Cyber, la guerre permanente.
Merci.